Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église, quelques jours avant Noël, que je vous souhaite à tous d'ores et déjà joyeux au milieu des vôtres. Alors que la fin de l'année approche donc, nous allons dédier cette émission au denier d'Église et à l'importance que revêt sa collecte pour les diocèses, surtout à notre époque. On en parle dans quelques instants avec mes trois invités. Je souhaite aussi la bienvenue aux trois invités de cette émission, Marion Douéret, responsable ressources et collectes au diocèse de Toulouse, le père Vincent Gallois, curé de l'ensemble paroissial cathédrale à Toulouse et membre du conseil diocésain des affaires économiques, et enfin Édouard Bouissou-Colombani, responsable des affaires financières de ce même diocèse de Toulouse. Merci à tous les trois d'être présents au rendez-vous. Le sujet de cette émission, c'est donc le denier de l'Église, mais c'est aussi l'occasion d'expliquer comment est géré le diocèse. Marion Douéret, quelle est par exemple la mission du service ressources et collectes ?
Bonjour à tous. Alors la mission du service ressources et collectes, c'est justement de collecter toutes les ressources dont l'Église a besoin. L'Église ne vit que des dons des fidèles, elle ne reçoit aucune subvention, ni de l'État bien sûr, ni du Vatican, ce serait plutôt l'inverse, donc elle ne vit que de dons. Donc voilà, le rôle de ce service ressources et collectes, c'est d'organiser la collecte des différents dons au fur et à mesure de l'année et de promouvoir la croissance des ressources des services du diocèse, mais également des paroisses. Et donc je suis aussi en lien avec les bénévoles, les prêtres et les curés des paroisses pour les aider eux-mêmes à collecter au niveau de leur paroisse les différentes ressources de l'Église, dont on parlera peut-être tout à l'heure.
On va en parler évidemment. Édouard Bouissou-Colombani, alors vous êtes responsable des affaires financières du diocèse de Toulouse. En quoi consistent les missions de ce service ?
Alors, je suis responsable du pôle compta finance, donc avec une équipe de 4 personnes et avec l'aide de notre commissaire aux comptes, nous enregistrons toutes les transactions du diocèse à l'intérieur du diocèse et avec l'extérieur du diocèse, et nous fiabilisons et certifions les comptes avec le commissaire aux comptes pour permettre aux donateurs d'être confiants sur l'utilisation des ressources, et les comptes sont publiés chaque année.
Et validé, je suppose, par les commissaires aux comptes. Alors, Père Vincent, vous, évidemment, votre rôle principal, c'est d'être le curé de la paroisse cathédrale à Toulouse, mais vous êtes membre du conseil diocésain des affaires économiques. Qui sont les autres membres de ce conseil ?
Alors, à ce conseil, d'abord, c'est un des conseils de l'archevêque pour les affaires économiques. Le vicaire général est membre de ce conseil, l'économe diocésain est membre de ce conseil, et puis il y a des personnes compétentes qui ont été choisies par l'évêque pour leurs compétences financières, immobilières, il y a un architecte, ou bien il y a un assureur aussi à la retraite qui est présent. Et puis il y a des prêtres aussi, le père Daniel Broir d'Herval et moi-même qui sommes présents à ce conseil. Et le conseil des diocésains des affaires économiques, puisque c'est son titre, décide des investissements qui sont amenés sur le diocèse après une réflexion pastorale qui se vit dans les autres lieux des conseils de l'évêque. Et à un moment donné, quand il y a une grosse dépense, un investissement à faire, eh bien c'est là que l'évêque le décide.
Est-ce qu'on peut dire qu'on a là les trois entités qui pilotent la gestion du diocèse de Toulouse ?
Ah, complètement. En fait, on peut dire que les affaires économiques, c'est tout ce qui n'est pas spirituel dans le diocèse. Et donc le pôle ressources et le pôle compta finance font partie de l'économat, dans lequel on trouvera aussi un pôle immobilier, un pôle juridique, un pôle RH, et donc Marion pôle ressources et moi pôle compta finance. Et tout ce qui n'est pas spirituel est confié par l'évêque à notre économe, monsieur Arnaud Chabert.
Le modèle économique du diocèse de Toulouse, alors le terme peut peut-être un peu effrayer ceux qui nous écoutent, mais en gros, comment ça fonctionne économiquement parlant et quelles sont peut-être pour commencer les principales dépenses et les principales ressources du diocèse ? Donc, Édouard Bouissou-Colombani.
Les principales ressources sont les dons qui se décomposent en cinq principales ressources. Donc il y a le denier, les quêtes, le casuel, les lumignons et les legs.
Il faut préciser ce qu'on appelle casuel et lumignon parce que ça, c'est certainement pas clair pour tout le monde.
Alors, le casuel, on va dire que c'est toutes les offrandes qui sont faites à l'occasion, on va dire, d'un cas particulier, c'est-à-dire d'un passage d'un rituel. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'on demande aux parents qui viennent faire baptiser un enfant, aux mariés, enfin aux fiancés qui viennent se marier, et également aux familles qui viennent demander des funérailles pour un proche. Voilà, donc c'est à ces occasions-là, cette occasion où on va ouvrir l'église, faire une célébration, accompagner, préparer cette célébration, qu'on demande une offrande aux personnes qui viennent le demander. Donc c'est directement dépendant en fait de la pastorale et voilà, de la croissance des sacrements. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, le casuel des funérailles augmente beaucoup parce que ben, on est dans une période où le baby-boom, les personnes du baby-boom commencent à beaucoup décéder, etc. Mais les baptêmes, par contre, baptêmes d'enfants, ça diminue. Ça suit vraiment les sacrements.
Et ce qu'on appelle l'union ?
Alors en fait, c'est ce qu'on appelle les troncs et les cierges. C'est-à-dire quand on rentre dans une église et qu'on va faire une offrande tout simple dans un tronc ou qu'on va allumer un cierge et qu'on va également faire une offrande qui correspond à ce cierge. Et c'est une ressource très importante parce que ce n'est pas une ressource qui concerne seulement les pratiquants. Il y a une personne sur deux qui rentre dans une église n'est pas pratiquante. Et c'est très important d'avoir des églises ouvertes avec des chapelles illuminées, des saints auxquels on peut rendre une dévotion. Et c'est très important pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller à la messe, mais qui aiment venir faire une prière, se recueillir tout seul dans une église. Et donc, c'est une ressource qui augmente aussi.
Il y a une ressource dont on n'a pas parlé, il me semble, c'est le legs.
Effectivement, le legs, c'est une ressource fondamentale pour le diocèse de Toulouse, parce que c'est une ressource avec les dons dédiés qu'on donne au chantier. C'est la ressource qui nous permet d'investir. C'est aussi la ressource qui permet au diocèse de Toulouse de survivre finalement, parce que sans le legs, il y aurait un...
C'est-à-dire que structurellement parlant, si on fait un rapport entre les ressources et les dépenses, les recettes et les dépenses, au diocèse de Toulouse, s'il n'y a pas le legs, vous êtes structurellement déficitaire chaque année.
Voilà, c'est-à-dire que les autres ressources qu'on dit récurrentes ne suffisent pas à nos charges récurrentes.
À couvrir les dépenses.
Et le principal des dépenses, ce sont les traitements des prêtres, les indemnités diocésaines des religieux, les cotisations sociales des prêtres et les salaires des salariés.
Alors, on comprend que le legs est très important. Comment ça évolue, ça, cette part du legs dans les ressources chaque année? Ça a plutôt tendance à baisser?
Le legs est plutôt stable, mais comme il est imprévisible et qu'il y a des bonnes et de mauvaises années, on est extrêmement dépendant du legs. Donc, c'est une ressource stratégique dont il faut favoriser l'accueil au maximum.
Que représente le denier d'église, qui est la ressource principale, a priori? Qu'est-ce que ça représente dans vos ressources?
Ça représente 41% des quatre ressources récurrentes, donc hors legs. Ça veut dire que quand je prends que le denier, le casuel, les quêtes et les cierges, le denier pèse 41% avec à peu près 3 100 000 euros.
D'où l'importance de ce denier de l'église et la raison pour laquelle on fait cette émission aujourd'hui. Alors, quand on parle de denier de l'église, on parle de quoi précisément? Parce qu'à une époque, on parlait de denier du culte. Aujourd'hui, on parle de denier de l'église. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Père Vincent, vous connaissez un peu l'histoire. Hein, parce qu'il y a eu denier du clergé, denier du culte et aujourd'hui, denier de l'église.
En 1905, la République a supprimé le budget des cultes, qui était la conséquence du concordat, qui rétablissait la paix religieuse entre l'État et l'Église après les turbulences révolutionnaires. Et donc, du jour au lendemain, le budget des cultes qui assurait la rémunération du clergé étant supprimé, il a fallu que les chrétiens subviennent aux besoins du clergé qui étaient très nombreux. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place un denier du clergé. Et puis, ça s'est élargi en denier du culte. Et depuis quelques dizaines d'années, on parle de denier de l'Église parce que c'est une ressource pour la mission. Ce n'est pas pour autre chose, c'est une ressource pour toute la mission de l'Église, pour que l'Église ait les moyens d'exercer ses tâches, sa mission d'annonce de l'Évangile, sa mission de sanctification et sa mission aussi auprès des, pour accompagner toutes les personnes qui sollicitent l'Église dans leur vie. Voilà, donc c'est pour ça que le denier a ce beau nom maintenant, denier de l'Église.
Donc c'est une contribution volontaire des fidèles, c'est le terme, je pense, exact qu'il faut employer. À quoi est-il affecté, le denier? Est-ce qu'il est affecté à des dépenses particulières ou est-ce qu'il est affecté aux dépenses en général d'un diocèse?
Alors, le denier est affecté à la ressource humaine de l'Église, c'est-à-dire pour rémunérer les prêtres, donc le traitement des prêtres, les laïcs, c'est-à-dire tous les salariés qui sont dans les services diocésains, mais également dans les paroisses, puisqu'il peut y avoir des secrétaires, enfin il y a des salariés dans certaines paroisses, et donc rémunérer donc aussi tous les services diocésains, et donc les services diocésains qui sont au service des paroisses. C'est-à-dire que ce qu'on a essayé de communiquer cette année avec notre campagne « Les prêtres, les laïcs et les bénévoles se donnent tant pour nous, soutenons leur mission », c'est-à-dire que même les salariés organisent par exemple des formations pour les bénévoles en paroisse pour qu'eux-mêmes puissent être au service des fidèles, de l'accompagnement, des familles en deuil, du catéchisme, de la transmission de la foi, de l'accueil des dizaines et des dizaines de catéchumènes qui sont de plus en plus nombreux. Donc voilà, donc on est vraiment sur la rémunération de l'humain et du dévouement de tous ces humains dans l'Église qui se donnent pour les autres.
C'est en cela qu'il ne faut pas le confondre avec la quête, parce que le produit de la quête, lui, il est affecté à quoi ? Il est affecté à la paroisse elle-même ?
Voilà, tout à fait. La quête, c'est vraiment pour le fonctionnement de la paroisse, les charges, l'électricité, le chauffage, les charges quotidiennes d'une paroisse.
Et voilà. La vie pastorale de la paroisse.
Et donc la vie pastorale de la paroisse.
Alors la quête, il faut le rappeler, elle ne concerne que ceux qui sont présents à une célébration. C'est aussi bête à dire, mais si vous êtes présent à la célébration et que vous allez pouvoir participer selon votre volonté, hein, parce que les gens donnent ce qu'ils veulent à ce moment-là. Alors il y a la quête électronique maintenant, en plus de la quête des pièces et des billets. Mais le denier, je suis frappé par le denier parce que le denier concerne ceux qui veulent dire leur adhésion à l'Église. Alors, on dit que tous les pratiquants ne donnent pas au denier, mais des non-pratiquants donne au denier, parce qu'ils veulent que l'Église accomplisse sa mission. Et pour moi, c'est très important de noter que ce denier dit, c'est une adhésion presque publique, puisque c'est déclaré, il y a un reçu fiscal et compagnie. Hein, mais c'est vraiment pour dire que le denier, il dit, moi je veux que l'Église continue sa mission ici et maintenant. Et ça, pour nous, c'est quand même très très important. Parce que quelqu'un s'engage. Le denier, c'est véritablement un engagement pour la mission.
Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que vous considérez que c'est un devoir pour un chrétien, un catholique, pratiquant, ou non pratiquant d'ailleurs, de donner pour le denier de l'Église ?
Alors, dans le mariage, il y a la contribution des époux aux charges du mariage, à proportion de leurs revenus. Dans l'Église, c'est pareil. Les chrétiens forment une famille, et ils sont appelés à participer à proportion de leurs revenus aux besoins de la vie de la communauté, c'est tout. Et c'est un besoin et c'est un engagement qui doit être porté avec joie, puisque l'Église porte la bonne nouvelle. L'Église célèbre le Christ. Voilà, l'Église nous communique la grâce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et j'ai envie de dire que le don à l'Église permet la générosité au-delà de l'Église. Parce que si on donne à l'Église, on donne au Christ, on donne à la mission du Christ. Et c'est là que cette mission peut ensuite se décupler. C'est pour ça que pour les chrétiens et pour les baptisés catholiques, c'est spécialement le devoir de participer à la vie de sa famille, tout simplement.
J'ajouterais que beaucoup de personnes disent « moi je m'investis déjà beaucoup ». Voilà, tous les matins, je viens ouvrir l'église, par exemple, dans la campagne, ou je fais déjà le catéchisme. Enfin, je m'investis déjà beaucoup dans mon temps.
Par des actions.
Voilà, par des actions, et c'est merveilleux, et on rend grâce pour ces fidèles qui sont bénévoles, parfois depuis des années. Et donc, je donne déjà à la quête, donc c'est pas la peine que je donne au denier. Et comme on vient de le dire, tout ça est différent. C'est-à-dire que, voilà, le denier, c'est vraiment pour l'humain, et on a besoin de la participation de tous. Et je dirais aussi qu'il n'y a pas de petits dons. On n'est pas obligé de donner 100 euros, on donne à mesure de ses moyens. Mais voilà, comme disait le père, c'est vraiment une participation d'adhésion, quel que soit le montant du don.
Est-ce qu'on a des statistiques sur la proportion de ceux qui donnent, c'est-à-dire par rapport au nombre de pratiquants ou au nombre de gens qui sont baptisés, au nombre de baptisés ? Est-ce qu'on sait combien donnent au denier de l'Église chaque année ?
Alors, la Conférence des évêques de France, en 2021, avait publié une étude qui montrait que seulement un pratiquant sur quatre donnait au denier. Donc, vous voyez ce que ça peut faire. Il y a encore une belle marge de progression. Et donc, une belle marge de progression dans nos assemblées, comme on disait. Hein. Il y a, effectivement, c'est merveilleux quand d'autres personnes que des pratiquants réguliers donnent au denier. Mais du coup, nous, notre cible, entre guillemets, en tout cas, les personnes à rechercher et à convaincre de participer, on peut déjà les accueillir à la sortie de la messe.
Alors, comment vous communiquez pour amener ceux qui ne donnent pas aujourd'hui ou qui vous disent, bah, moi, je donne déjà beaucoup de mon temps ou je donne déjà à la quête, donc je ne vais pas donner en plus au denier, comment vous communiquez pour les convaincre? Alors ce sont les prêtres, je suppose, qui communiquent déjà, mais ça ce sont ceux qui viennent chaque dimanche à la messe, ou en tout cas beaucoup de dimanches à la messe. Mais sinon, est-ce que vous avez des campagnes ciblées sur ceux qui ne donnent pas encore aujourd'hui?
Alors effectivement, rien ne vaut le message d'un prêtre à la fin de la messe en chair pour appeler au don au denier. Les gens donnent encore beaucoup avec un attachement à la figure de leur prêtre ou de leur curé. Voilà, de toute façon, c'est ce qu'on disait, ça vient directement rémunérer le curé, donc sa parole, donc nous, on peut les accompagner, on peut leur donner des idées de messages, etc. Mais voilà, rien ne vaut un
mais ça, Père Vincent, ce genre de communication, excusez-moi du terme, pécuniaire, comme ça, pendant une messe, est-ce que ce n'est pas délicat pour un prêtre d'aborder ce sujet?
Alors, ça dépend comment on l'aborde, évidemment, mais si vous voulez, si on est dans une religion d'incarnation, l'incarnation, elle passe par la vie matérielle, voilà. Et pour moi, contribuer à la vie de l'Église, c'est vivre concrètement aussi quelque chose de sa foi. Et moi, je suis attaché à relever la dimension spirituelle du don. J'ai un exemple. J'étais dans une autre paroisse il y a quelques années, puis je vois arriver un chèque de 1780 et quelques euros. Et je me dis, tiens, c'est quand même étonnant, c'est pas tous les matins qu'on reçoit un chèque comme ça pour le denier. Alors, je fais une recherche, je trouve le nom de la personne et je l'appelle. Je dis, mais est-ce que vous n'êtes pas trompé? Parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et la personne me dit, non, je ne me suis pas trompé. J'avais décidé d'offrir au Seigneur mon premier salaire. Eh bien, voilà, si vous voulez, les personnes vivent le don, l'Église est médiatrice de ce don pour le Seigneur, et parce que c'est la mission du Christ que porte l'Église. C'est pour ça que ce n'est pas une histoire de pognon simplement, hein, c'est une histoire vraiment d'adhésion au Seigneur.
Cet exemple est très parlant, je trouve. Bon, après cet état des lieux et cette première présentation du denier de l'Église, la manière dont son montant est affecté, nous allons faire l'habituelle pause dans cette émission. À moins d'une semaine du 25 décembre, vous ne serez pas étonné que nous la fassions en écoutant une œuvre de circonstance, un extrait de l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach. C'est le début du chœur Yahouzet, interprété ici par le Concert des Nations sous la direction de son fondateur Jordi Savall. Thank you.
Église, Éric Dupri.
Alors, retour à l'antenne avec mes trois invités, Marion Douéret, responsable ressources et collectes au diocèse de Toulouse, le père Vincent Gallois, curé de l'ensemble paroissial cathédrale à Toulouse, membre du conseil diocésain des affaires économiques, et enfin, troisième invité, Édouard Bouissou-Colombani, responsable des affaires financières de ce même diocèse de Toulouse. Après cette pause musicale, nous reprenons le fil de cette émission dédiée aux deniers de l'Église. On va parler chiffres de façon très concrète. Quelle est l'évolution du montant de la collecte depuis quelques années? Édouard Bouissou-Colombani, je pense que vous avez des choses très précises à nous communiquer.
Oui, alors depuis 2014, on voit une érosion de 2% par an du denier. Donc c'était une baisse constante et du nombre de donateurs. On perdait à peu près 1000 donateurs par an. Et pour la première fois cette année, on observe l'arrêt de cette érosion, voire même un rebond. Mais c'est trop tôt pour le dire, puisque, comme vous ne le savez pas, vous, il y a un tiers du denier qui est fait en décembre. Donc c'est en décembre qu'on va voir si cette érosion, l'arrêt de cette érosion est confirmé.
Est confirmé. Et donc, ils vont se faire là, dans les semaines qui viennent. L'évolution à la baisse depuis des années, elle était due à quoi? Au fait que, tout simplement, les générations de donateurs ne se renouvellent pas.
Oui, tout à fait. Effectivement, il y a une... tradition.
C'est pas que les gens donnent moins, c'est
qu'il y a... Non, mais c'est-à-dire que les comportements des donateurs sont aussi différents selon l'âge des donateurs. Et donc, la génération, on va dire, des personnes les plus âgées, entre voilà, 70 et 90 ans, donnent par tradition, donnent à l'institution, un peu par tradition. Et plus on descend dans l'âge des donateurs, plus les personnes vont donner par adhésion ou pas à la cause, comme on disait tout à l'heure. Et puis, les personnes aussi vont plus donner pour des projets. Parce qu'elles vont voir justement tout de suite...
Que c'est concret.
Voilà, que c'est concret. Et c'est pour ça qu'on voit aussi une belle progression de la collecte pour les chantiers diocésains. Parce que c'est très concret, parce qu'on donne pour l'immobilier, pour des travaux qui vont se faire demain, ou pour, par exemple, l'église de Bordeaux-Rouge. On a eu une très belle collecte ces deux dernières années. Voilà, donc les personnes plus jeunes vont donner pour des projets précis. Et donc, ben voilà, il y a tout un travail à faire.
De communication sur ces projets-là.
Pour ce qu'on disait tout à l'heure, pour leur dire que ben, la mission, c'est aussi un projet. C'est le projet de l'annonce de l'évangile au quotidien.
Père Vincent.
Il y a aussi le fait que ceux qui découvrent l'Église, ben d'abord ils découvrent la joie de l'évangile et de la vie en Église. Mais je me souviens là d'un catéchumène qui me disait « Ah, mais vous m'avez donné le parcours, vous m'avez donné la Bible, et ceci et cela, et comment vous financez tout ça ?» On n'avait pas parlé hein, dans le parcours encore de... Et je dis, ben, c'est le denier, c'est la contribution des fidèles. Et en retour, je lui ai donné une enveloppe du denier de l'Église. Et si vous voulez, c'est pour bien montrer que c'est pour faire vivre la mission qu'on a le denier. Et que cet argent-là, il n'est pas pour dormir sur des comptes. Il est mis en œuvre pour annoncer l'Évangile.
De la nécessité qu'il n'y ait pas de tabou. Quand il vous en a parlé, vous lui avez donné l'enveloppe
Exactement.
Du denier. Vous avez parlé des catéchumènes, et depuis quelques années, on le sait, hein, il y a un boom du catéchuménat en France, hein, y compris bien sûr à Toulouse et partout. D'année en année, on voit que c'est une progression vraiment très importante. Est-ce que ça ne peut pas aussi expliquer ce rebond que vous constatez sur le denier?
En tout cas, on espère que ce rebond...
Ça paraît très logique.
Oui, ce qui est sûr, c'est que ce défi du catéchuménat, ce rebond, va nécessiter des moyens et de repenser un petit peu nos ressources pour pouvoir accompagner toutes ces personnes qui frappent à la porte de l'Église. Et pour le moment, même si les ressources stagnent, avec l'inflation et le défi catéchuménal qu'on voit, et la baisse des donateurs, il va falloir réagir pour pouvoir accompagner dignement toutes ces personnes.
Alors, on parlait de communication, et l'anecdote que rapportait le père Vincent est là aussi assez éloquente, je trouve, c'est qu'il y a des gens qui maintenant vont se faire baptiser, mais qui ne savent pas comment ça fonctionne, comment c'est financé. Marion Douéret.
Oui, tout à fait. Alors, mon travail aussi, c'est de déployer des moyens de communication en paroisse. Donc, voilà, on diffuse régulièrement donc, dans les appels aux dons, aux deniers. Mais là, évidemment, ça cible les donateurs, hein, des gens parce qu'on leur envoie un courrier à des gens qui ont déjà donné. Ou qui ont donné à une autre cause que le denier. Mais du coup, ils reçoivent quand même un courrier. Ils sont dans notre base de donateurs. Et donc, nous, l'idée, bah, c'est comme on disait, c'est-à-dire de leur montrer l'impact pastoral de leurs dons et de leur montrer que, voilà, s'ils donnent au denier, la vie pastorale va progresser. progresser, on va pouvoir faire face à tous ces défis de l'Église. Et puis, ben, effectivement, c'est ce qu'on a voulu montrer cette année avec, voilà, avec cette campagne. Déjà, c'est très simple. On essaye surtout de montrer que le don au denier est simple à faire, hein, puisqu'on voit une progression importante des dons en ligne. Alors, on n'a plus besoin de faire un chèque ou de mettre son enveloppe dans la boîte aux lettres du presbytère. Avec des QR codes, on peut tout à fait donner très rapidement. Alors, on va sur le site de dons en ligne qui s'appelle don-église-toulouse.org. Et sur cette plateforme de dons en ligne, on peut choisir, donc on peut donner au denier, au chantier diocésain, on peut donner aussi pour la formation des séminaristes, on peut faire aussi une offrande de messe en ligne, et donc on peut choisir aussi la paroisse à qui on va affecter le denier.
Alors ça c'est important aussi de le savoir, ouais. C'est qu'on peut vraiment choisir la paroisse à laquelle on veut donner, on ne met pas dans un pot commun, on peut bien sûr, mais si on veut donner à une paroisse, la sienne en général, en particulier, on peut, il suffit de le préciser.
Voilà, il y a un menu déroulant, on choisit la paroisse, elles sont toutes déjà
y compris si on le fait par le moyen d'un chèque, c'est-à-dire qu'il faut joindre un petit mot.
Oui, alors tout à fait. Alors l'idée c'est, pour le denier, il faut bien mettre ADT, c'est-à-dire Association Diocésaine de Toulouse, sur l'ordre du chèque. Et c'est comme ça qu'ensuite, on peut avoir un reçu fiscal. Voilà, si vous mettez le nom de la paroisse et qu'on n'a pas la place de mettre ADT, nous, après, au niveau du diocèse, on a du mal à enregistrer le chèque et donc, du coup, ensuite, à établir un reçu fiscal. Donc, pour le denier, et comme pour les chantiers et pour la formation des séminaristes, c'est des chèques qui doivent être libellés à l'ordre de l'Association Diocésaine de Toulouse, donc ADT, et ensuite préciser soit le nom de la paroisse, soit après, formation des séminaristes ou tel chantier.
Alors, concernant les déductions fiscales, puisque vous évoquiez le sujet, ce sont exactement les mêmes montants que lorsqu'on donne à une association, quelle qu'elle soit.
Tout à fait. C'est-à-dire que pour un don au denier, au chantier ou à la formation, en tout cas, tout ce qui est don à l'association diocésaine de Toulouse, on a 66% de réduction.
Pour un particulier.
Voilà, pour un particulier, 66% de réduction du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable. Et puis, pour les entreprises, c'est 60% de déduction de l'impôt sur les sociétés.
Exactement les mêmes montants, voilà, de déduction que pour une association, quelle qu'elle soit. Les enjeux de cette collecte du denier de l'Église aujourd'hui, bon, il y en a un que vous avez aussi évoqué, c'est la digitalisation de la collecte. Donc là, là-dessus, vous êtes vraiment au top, si je puis dire, de ce qui se fait aujourd'hui.
Oh bah écoutez,
tous les moyens sont disponibles.
Tout à fait, hein, c'est-à-dire qu'on a commencé par bien développer il y a quelques années ce site de dons en ligne pour que les personnes puissent donner directement sur Internet. Et aujourd'hui, avec les QR codes, on peut aussi voilà,
et
facilement...
Et c'est parfaitement sécurisé parce que c'est souvent ce qui inquiète
les gens,
parce qu'ils
font
des dons
en
ligne,
bien sûr. C'est tout à fait sécurisé.
Et puis l'autre enjeu, c'est de renouveler les donateurs. Alors comment on fait? Ça va encore passer par les prêtres, beaucoup, par aussi le discours que vous pouvez tenir aux catéchumènes notamment.
Alors, il y a les catéchumènes, mais il y a aussi ceux qui sollicitent l'Église. J'ai pris l'habitude, depuis quelques années, d'adresser un courrier aux couples que l'on a mariés, aux familles dont on a baptisé des enfants, et un courrier spécifique qui leur demande, ben voilà, vous avez sollicité l'Église, eh bien, l'Église, maintenant, vous sollicite pour être là demain. Pareil pour les personnes qui nous ont sollicité pour les obsèques. Parce qu'il y aurait une erreur de croire que le casuel couvrirait la totalité des charges de la vie de l'Église au temps T, là, pour le temps... Non, le casuel, c'est une contribution qui est aussi assez souple, hein, par rapport aux possibilités des personnes. Et on invite les familles, tous ceux qui sollicitent l'Église, à donner pour le temps où ils ne sollicitent pas spécialement l'Église. C'est pour ça que le denier est là. Voilà, pour faire le pont entre deux temps où on va se marier, puis entre le temps où il y aura le baptême des petits, ben, il y a le temps aussi du denier de l'Église pour aller dans la durée. Et puis bien sûr, pour les catéchumènes, il nous appartient aussi de leur faire découvrir que l'Église est concrète. Alors, il y a le denier, il y aura tout aussi leur participation à la vie de l'Église. On n'attend pas qu'ils soient baptisés pour leur demander... De rendre service, puisqu'on prêche un Messie qui s'est fait serviteur. Donc, devenir chrétien, c'est devenir serviteur. Et donc, voilà, on les invite aussi à prendre leur part à la vie de service de l'Église, mais également à la vie matérielle et économique de l'Église, et du coup, à donner selon leurs moyens pour que l'Église soit présente.
Édouard Bouissou-Colombani, est-ce qu'on a une idée de la pyramide des âges des donateurs? Est-ce qu'on sait les tranches d'âge qui donnent le plus et celles sur lesquelles il y a un effort à faire parce qu'elles ne donnent pas, alors pour des raisons qui restent à identifier, bien sûr?
On a une idée très précise, c'est Marion Douéré qui étudie... En fait, disons qu'en gros, les personnes âgées c'était dans leur mœurs, c'était un devoir, c'était inclus dans leur vie de chrétien de donner. Et ça ne s'est pas transmis. Et comme disait Marion, les jeunes maintenant sont pas moins généreux qu'avant. Il faut savoir que la générosité des jeunes est plus forte qu'avant même, en termes de bénévolat et en termes de dons en France, selon l'Observatoire de la générosité. Mais ils donnent plus volontiers pour des projets concrets.
Donc c'est là-dessus que vous axez votre communication.
Oui, alors sur les projets concrets, mais il y a aussi des jeunes, on a des témoignages comme ça, c'est un témoignage qui me revient, d'un jeune qui a dit, bon, bah, ce mois-ci, j'ai suspendu par exemple mon abonnement à Netflix ou mon abonnement à telle appli et j'ai fait mon don au denier. Enfin, donc il y a quand même au niveau des jeunes, il y a beaucoup de dynamisme, on voit avec la paroisse étudiante qui est très nombreuse et donc certains jeunes comprennent qu'ils sont accompagnés, ils sont soutenus dans leur foi et c'est le rendre l'appareil entre guillemets, de donner au denier.
Alors, ce que je comprends, c'est qu'ils veulent donner du sens à leur don et du contenu.
Tout à fait. C'est-à-dire que ça ne va pas être comme nos parents ou nos grands-parents, donner de façon automatique parce que on est chrétien, on donne à l'Église. Non, ça fait sens de donner par rapport à la façon dont je suis, moi, soutenu dans ma foi par tous les acteurs de l'Église.
Lorsqu'on donne, et on le donne en fonction de ses moyens, bien sûr, hein, mais aussi on peut donner parce qu'on arrive à identifier ce que, avec tel montant, je vais financer. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Par exemple, si on donne 100 euros, on finance quoi avec 100 euros si on donne aux deniers de l'Église?
Je crois qu'on donne 2 jours de l'équivalent de traitement d'un prêtre, par exemple.
Oui, en fait, un prêtre touche 1047 euros par mois. Mais ce n'est pas ce qu'il coûte. Il coûte plus parce qu'il faut cotiser pour sa retraite et pour sa santé.
Il y a des charges sociales comme pour n'importe quel traitement.
Voilà, exactement. Donc, en fait, dans les 1047 euros, il y en a 687 euros qui sont son traitement et 360 euros d'offrande de messe.
C'est-à-dire que le coût total, c'est vraiment 1047.
Non, ça, ce n'est pas le coût, c'est ce qu'il perçoit, lui.
C'est ce qu'il perçoit, lui, d'accord.
Et le coût, par contre, c'est 1660 euros par prêtre. Et nous sommes il y a 130 prêtres dans le diocèse de Toulouse.
Oui, parce que je vois d'autres chiffres, et ça c'est sur le site, on peut le trouver sur le site du diocèse de Toulouse. Avec 250 euros, on finance une semaine de salaire d'un laïc en mission.
Oh ben, les laïcs en mission sont salariés, donc oui, c'est le salaire des laïcs. Donc les laïcs en mission, c'est général, hein, c'est-à-dire ça va être tous les salariés dans les services diocésains, que ce soit dans les services pastoraux, donc le catéchuménal, l'annonce, le catéchisme des enfants, le service aussi des pèlerinages, le service de la musique liturgique, la diaconie, etc. Donc tout ce qui est l'accompagnement des personnes les plus fragiles. Il y a 5 pôles au niveau du diocèse qui accompagnent et qui assurent l'accompagnement pastoral, donc soit les mouvements du diocèse, mais aussi les relais en paroisse et tous les référents en paroisse. Je pense au service évangélique des malades, donc qui ont besoin aussi d'être formés par le service diocésain évangélique des malades, etc.
Et puis je lisais qu'avec un don de 700 euros, on finance 2 mois de complément de retraite d'un prêtre retiré, qui n'est plus en paroisse. Parce qu'il faut financer aussi les cotisations des prêtres en activité, mais il y a ceux qui ne le sont plus.
Oui, le prêtre, quand il se fait ordonner, il se confie jusqu'à sa mort à l'Église. Donc l'Église se doit de prendre soin du prêtre jusqu'à sa mort. Donc ce n'est pas parce qu'un prêtre est retiré
qu'il ne coûte plus
à l'Église. Voilà.
Qu'est-ce que vous diriez, chacun d'entre vous, pour convaincre ceux et celles qui nous écoutent de faire un don et de contribuer à la collecte du denier de l'Église? On va commencer par le père Vincent, qui en a déjà dit beaucoup.
Je pense que d'abord, c'est par amour de l'Église qu'on donne. Voilà, c'est par amour de l'Église, par amour du Seigneur. C'est ça la raison fondamentale du don, parce que je veux que la mission de l'Église s'accomplisse. Et la proportion du don, alors vous avez évoqué ce qu'on peut faire avec 100, 250 ou 700 euros. Moi, je suis frappé qu'en fait, le don correspond aussi à l'ardeur de l'amour que j'ai pour l'Église. Et je me souviens encore là d'un autre exemple, dans une autre paroisse où j'étais, il y avait une enveloppe qui arrivait tous les mois de 83 euros. Alors je demandais, mais qu'est-ce que c'est cette enveloppe de 83 euros en espèces? C'est une dame qui passe tous les mois déposer. Alors, et je trouve cette dame, et c'est une dame qui donnait 10% chaque mois de son revenu. Voilà, parce que pour elle, alors elle avait été d'origine vietnamienne, pour elle c'était la dîme. Voilà. Mmh. Et donc, si vous voulez, je crois qu'on ne rentre bien dans la considération du denier que si on considère que c'est le don que Dieu me demande, que je peux faire au Seigneur, voilà, en réponse de toutes ses grâces. tu nous as tout donné, Seigneur, et bien voilà, je te rends grâce. C'est ça, il y a quelque chose, une dimension d'action de grâce. Et pour moi, comme prêtre, je voudrais que tout le monde, on n'est pas là parce qu'il faut passer à la caisse, on est là pour donner, rendre au Seigneur quelque chose de ses bienfaits.
Marion Douairet.
Alors, ben, moi, je dirais, si on fait son budget chaque mois et qu'on voit à quoi on affecte son salaire et comment on répartit son budget personnel, à quoi on affecte l'habillement, effectivement, avoir un toit sur la tête, manger, etc. Donc, tout ça, ce sont des besoins primaires qu'il faut assurer. Et le besoin spirituel, la nourriture spirituelle, en fait, normalement, pour chaque chrétien, en fait partie. Donc voilà, c'est cette nourriture spirituelle. Quelle est ma contribution pour rendre grâce de cette nourriture spirituelle qui me nourrit et qui est aussi importante, sinon autant importante qu'une nourriture, on va dire, plus matérielle. Donc j'invite un peu chacun à se poser cette question, se dire si j'avais pas l'Église dans ma vie, si j'avais pas le Christ dans ma vie, si j'avais pas cette communauté à laquelle j'appartiens, comment je me sentirais et quelle serait ma vie. Donc j'invite chacun à se poser cette question et à discerner sur son don au denier.
On en revient à la question du sens, qu'on évoquait il y a quelques minutes. Quel sens je donne à ma vie et quel sens je donne aussi à l'argent que je peux gagner, à quoi je l'utilise. Édouard Bouissou-Colombani, vous êtes vraiment le nez dans les comptes.
Voilà, donc
vous connaissez les urgences et les priorités.
C'est-à-dire qu'en responsable comptable du diocèse, je suis au meilleur endroit pour voir toute l'énergie que le diocèse déploie, qu'elle mobilise chez tous les bénévoles et chez tous les religieux et prêtres. Et donc je suis au meilleur endroit pour dire que c'est de l'argent bien dépensé que de donner au denier. Je vois aussi le service de la diaconie qui met la périphérie au centre, donc qui nous permet d'être évangélisés par les vulnérables, par les exclus. Je vois toute l'énergie, toute la beauté de ce qui est fait. Et donc je pense que c'est effectivement donner du sens à sa vie. Et comme dit Marion, je pense que si on mesure tout ce que l'Église apporte, c'est normal de lui faire une place dans son budget matériel.
Oui. Il y a une façon de donner aussi qui est propre à chacun, parce que vous disiez que c'était surtout en décembre, enfin, il y avait un tiers du denier qui arrivait en décembre, on peut donner toute l'année, et comme certaines personnes, on peut donner tout simplement mensuellement.
Tout à fait.
Un montant qui va être, ça peut être 10 euros.
C'est ça, c'est vrai qu'on
énorme,
a...
Mais
on
ça
a,
fait 120 euros sur l'année quand
on
même.
On a parlé beaucoup du don ponctuel, mais tout à fait, ça peut être aussi très pratique, et on règle la question une bonne fois pour toutes, et encore on peut les faire évoluer, en souscrivant au prélèvement automatique. Donc il y a deux façons pour faire ça. Donc dans chaque appel au don, au denier, il y a un mandat CEPA qu'on peut signer, renvoyer et dire je souhaite donner tant par mois au denier de l'Église en donnant son RIB, enfin comme n'importe quel prélèvement qu'on peut avoir pour nos autres dépenses. Et puis on peut aussi souscrire en ligne directement, c'est très facile, on clique sur je donne tous les mois. Et puis
j'ai vu qu'il y avait un lien effectivement donner@diocese-toulouse.org. Pour une adresse
Alors,
mail.
Ça, c'est l'adresse mail, oui, commune, mais ça, c'est si jamais vous souhaitez modifier le montant de votre prélèvement automatique, parce qu'on peut aussi avoir des budgets qui montent et qui descendent, donc si vous voulez modifier le montant de votre prélèvement, un simple mail à cette adresse, et on modifie le prélèvement. Mais pour y souscrire, on peut le faire via une enveloppe qu'on trouve au fond des églises, ou directement en ligne sur le site dont on a parlé tout à l'heure.
Eh bien, nous allons devoir conclure cette émission à laquelle je vous remercie d'avoir participé tous les trois. J'espère que nous aurons été le plus clair et le plus complet possible sur ce qu'est le denier d'église, sur la manière dont le montant de la collecte est utilisé et sur les différentes façons de faire un don pour avoir toutes les informations nécessaires et contribuer éventuellement en ligne. Je vous invite à vous connecter à l'adresse www.don-église-toulouse.org. Cette émission était animée par Éric Dupri, à la technique Enzo Basile. Très bonne journée à tous à l'écoute de Radio Présence. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.